Ô Seigneur, comme qu'il est bon d'être dans ta présence. Comme qu'il est bon, Seigneur, de prendre du temps pour venir louer ton nom, Seigneur, élever ton nom, Seigneur, parce que nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu fais dans nos vies. On est reconnaissant de ce que tu as commencé en nous, Seigneur, lors de notre conversion, puis tout ce que tu as fait pendant, depuis qu'on est sauvés. Merci, Seigneur. On ne cessera jamais, on pourra jamais assez te le dire, Seigneur, qu'on est content de ce que tu fais, puis on est reconnaissant, puis on veut t'élever, Seigneur, on veut glorifier ton nom, puis on veut proclamer tes merveilles, tes bontés pour chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de ton œuvre que tu fais. Continue d'agir au milieu de nous ce soir, Seigneur. Par ta parole, oui, continue à transformer nos vies. Merci de ce que tu vas faire, Seigneur. Et on s'attend à toi encore, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Pour ceux qui étaient là samedi, le peuple de Dieu était au front. Peut-être que vous allez me dire, ouais, mais c'était juste comme un party de cabane à sucre. C'était beaucoup plus qu'un party de cabane à sucre. Parce qu'il faut regarder dans le monde spirituel et non pas juste à la vue humaine. La cabane à sucre, c'était juste un prétexte de dire on est rassemblés dans un endroit où il y a des gens non sauvés ou non convertis, ou des gens qui ne connaissent pas la parole. Puis le peuple de Dieu était au milieu de ces gens-là, puis il était pas gêné de louer le Seigneur, puis d'exalter le Seigneur, puis de s'exciter devant le Seigneur. Ils ont pris leur liberté à pouvoir glorifier le nom de Jésus, le nom de notre Père aussi. Et qu'est-ce qui s'est arrivé comme résultat? Mais il y a des gens qui ont entendu le message de l'Évangile. Que ce soit par la musique, que ce soit par le message, la parole a été semée. Puis c'est ça que la Bible veut qu'on fasse. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Allez et portez la bonne nouvelle. Ça ne nous dit pas nécessairement qu'à toutes les fois, il va y avoir des gens qui vont venir à l'Évangile, mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont reçu le message puis qu'il y a des gens qui ont été touchés. Parce qu'il y a des gens que je connais qui étaient là puis qui n'avaient pas encore accepté Jésus, puis ils ont entendu le message, puis ils ont été très ébranlés. Puis il y en a d'autres qu'on pouvait voir, des gens qui joignaient avec nous, puis ils chantaient avec nous autres. Mais merci Seigneur pour ces temps glorieux qu'on a. C'est sûr, si on regarde au plan matériel, on dit, ouais, mais ça coûte de l'argent. C'est pas grave, c'est pas ça. On a arrêté peut-être à cabane à sucre quand même. Mais le fait d'être tout ensemble, ce que ça a fait un impact dans le monde spirituel. La vérité, la lumière de Dieu était... Il était mis en évidence. Les gens, ils sont conscients maintenant. Il y a des gens qui sont conscients qu'à quelque part, il y a des groupements de personnes qui s'accrochent à Dieu et qui ont mis leur foi en Dieu. Et je crois que le Seigneur va continuer son œuvre. Qu'est-ce qui a été semé? Le Saint-Esprit continue à faire son œuvre. À un moment donné, il y a d'autres personnes qui vont rencontrer ces gens-là et qu'il va y avoir d'autres paroles qui vont être dites. Les gens vont être arrosés. Les premières nouvelles qu'on va savoir, il va y avoir des gens qui vont venir accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Parce qu'ils ont vu qu'il y a des gens qui n'avaient pas point honte de répandre la parole, point honte de chanter, de s'exciter devant lui. Il faut continuer à prendre notre liberté comme ça, puis à s'exciter devant le Seigneur, devant les gens aussi, pour qu'ils voient nos bonnes œuvres. Ça fait partie des œuvres que Dieu a préparées pour nous. Merci Seigneur. On a vu que la semaine passée que le cœur de Dieu, il est extrêmement patient envers chaque personne, puis il veut que tous soient sauvés, il veut que tous les gens qui nous entourent soient sauvés. Dieu tend ses mains, puis il parle, puis il agit d'une manière ou d'une autre, il envoie quelqu'un, il donne des paroles, puis il convainc par son esprit. Il fait un œuvre pour attirer tous ces gens-là. Puis Jésus, il dit aussi que sa bonne nouvelle, sa parole, elle va être répandue parmi toutes les nations, alors viendra la fin. Il n'est pas plus intéressé de revenir tant que la parole ne sera pas finie d'être répandue. Tant que les gens ne sont pas en connaissance de cause, et comme j'ai déjà dit aussi, que le Québec, c'est la place, la terre la moins évangélisée, où il y a le moins de missionnaires, il y a le moins de gens convertis. C'est nous autres qui en avons besoin de plus. Puis quand on sort pour aller faire cette œuvre-là, mais le Seigneur est content. Le Seigneur, il est que son cœur, il s'est réjoui. Pareil comme les 70 qui sont revenus avec joie et qui étaient tout excités devant le Seigneur de dire que les démons étaient soumis en son nom. Mais Jésus dit, réjouissez-vous pas de ça, mais réjouissez-vous de ce que vous êtes sauvés. Mais ça, ça le réjouit le cœur de Jésus parce qu'il a tressailli de joie par le Saint-Esprit suite à la suite de cet événement-là. Puis là, il était content puis il a glorifié son Père d'avoir révélé ces choses à des enfants. Des gens qui sont capables de s'exciter avec la parole de Dieu, qui sont capables de s'exciter d'être sauvés. Sont capables de croire en quelque chose qui n'est même pas visible. J'étais en train de croire en quelque chose qui n'est même pas visible. Le fait que votre nom est inscrit dans le livre de vie, c'est pas visible, mais c'est une chose qu'on sait par la foi, qu'on est sauvé, qu'on fait partie du royaume de Dieu. Puis un jour, Jésus va venir nous chercher, puis il va nous amener avec lui. On s'excite de choses qu'on ne voit point. C'est ça qui est la foi. Puis on n'a pas peur de l'afficher, puis on chante des chants pour célébrer ce qui s'est passé quand on a accepté Jésus. On glorifie son nom en public. Ça, mais le Seigneur, il est content de ça quand on est dans cette position-là. Puis on a vu aussi que le Seigneur travaille pour sauver les gens, mais qu'il ne peut pas travailler sans qu'il y ait des gens qui prêchent. Parce que ça nous dit aussi, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et que nous autres, c'est notre mandat d'aller répandre la parole. Puis on a vu aussi que notre indisponibilité, ça l'obligeait Dieu à changer ses plans. Parce que lui, il connaît d'avance tous ceux qui doivent venir, il organise son plan, puis il se fie sur nous autres qu'à chaque moment qu'on peut se répandre la parole, au moment opportun, au bon moment que lui a préparé, puis des fois, on le dit pas, fait qu'il est obligé de travailler autrement pour arriver à ses fins. C'est sûr qu'il est tout puissant, mais il compte sur nous autres. Puis c'est important qu'on soit obéissant, puis chaque occasion qu'on a, faut être prêt à rendre témoignage. Faut être prêt à ouvrir la bouche pour dire ce qu'on a à dire. Y a-t-il un amen à ça? Y en a-tu que ça les a édifiés en fin de semaine? Y en a-tu que ça les a donné, ah, ben c'était le fun, on est ensemble, puis que c'est, ça l'encourage, puis ça va nous donner encore plus de courage d'y retourner une autre fois? Pas plus que ça? Ça se peut-tu que vous n'étiez pas là? Moins, d'accord, moins. Chaque pas qu'on fait, c'est un pas qui nous solidifie, qui nous fortifie. Un enfant, il se renforce comment? C'est sûr qu'il mange, mais il fait de l'exercice aussi. Il commence à faire son premier pas. Il est soutenu, mais il commence à marcher, puis plus qu'il marche, plus ses jambes se renforcissent, plus qu'il contrôle son équilibre, puis plus qu'il va marcher, plus qu'il devient capable de marcher. Puis il vient un temps qu'il court, puis il va même aux places qu'on ne voudrait pas qu'il aille. Mais nous autres, c'est la même chose spirituellement. Chaque pas qu'on fait au-delà de ce qu'on n'était pas capable de faire, on se renforcit. C'est le Seigneur qui va nous rendre capables pour devenir des apôtres à Paul ou devenir des Jésus. Est-ce qu'on veut le devenir comme Jésus? Mais Jésus était comme ça, lui. Il a pas peur de répandre la parole, que ce soit un docteur de la loi, il disait qu'est-ce qu'il avait à dire, que ce soit une simple personne, il disait ce qu'il avait à dire. Puis il parlait de bonnes choses, des choses qui concernent le royaume. On va prendre le point 9 dans le cours qui est on fait une suite. On est rendu à la 7e réunion sur le cours de la Grande Commission. Le point 9, ça se trouve être à la page 8. On commence par le titre « Tous peuvent témoigner de leur expérience avec le Seigneur ». Jésus a délivré un démoniaque qui avait une légion de démons en lui. Puis après l'avoir délivré, il lui dit. Ça, là, regardez bien ce que Jésus lui dit. Dans Marc 5, 18 à 19. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Parce que cette personne-là avait une légion de démons. Selon les enseignements, là, ça nous dira qu'il y avait à peu près 2000 démons dans cette personne-là. Cette personne-là, elle se meurtrissait par des pierres, puis elle était nue, puis elle vivait dans des sépulcres, dans un cimetière, puis ça lâchait des cris, des hurlements, puis il essayait de l'attacher avec des chaînes, puis il brisait ses chaînes, puis personne n'avait la force de le dompter. Même des psychologues. Des fois, on essaye de contrôler les gens en raisonnant, mais ces gens-là ne se contrôlent pas. Personne n'avait la force de le contrôler, ni physiquement, ni moralement. Jésus arrive et il chasse les démons qui étaient dans cette personne-là. Suite après, ce démoniaque-là qui a été guéri, qui n'avait plus aucun démon, il lui demande la permission de rester avec Jésus. Mais Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Ça ne nous dit pas que cette personne-là avait été suivre des cours bibliques à l'université pendant 3 ans de temps, puis que ça ne nous dit pas que cette personne-là était fidèle à l'Église, puis qu'elle pratiquait tout ce qu'elle avait à faire, puis qu'elle était rendue diacre ou pasteur. Ça ne nous dit pas que cette personne-là était avec des degrés même de connaissance humaine, comme action secondaire 5 ou quoi que ce soit. Ça nous dit juste que c'est à quelqu'un de malade, c'est quelqu'un qui a été touché de la part du Seigneur, c'est quelqu'un qui était déjà prêt à être envoyé, à aller répandre ce qui s'était passé dans sa vie. Mais je pense qu'à quelque part, il y a une leçon tirée pour chacun de nous là-dedans. Tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ, il y a eu un changement dans leur vie. Moi, ma vie a changé. J'ai eu des délivrances, j'ai eu des guérisons, ma vie est transformée, je suis plus le même gars. Ça le dit dans la parole, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il s'est passé des choses, raconte-leur qu'est-ce qui s'est passé. Lors de l'intervention de Dieu dans la vie de Paul, il lui dit qu'il devait partager ce qu'il avait vu et ce qu'il verra. Dans Actes 26, le verset 16, il dit, « Mais toi, lève-toi. » Jésus est en train de parler, dans une vision, est en train de parler à Paul. Il dit, « Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Ça veut dire que Paul était établi pour être dans le ministère, pour être un témoin, pour dire ce qu'il avait vu et pour ce qu'il était pour voir ensuite. Ce n'était pas nécessairement des enseignements qu'il fallait qu'il partage, ce n'était pas nécessairement des choses extraordinaires qui étaient au-delà. Juste raconter ce qu'il a vu et ce qu'il était pour voir. C'était la même chose avec le démoniaque. Va raconter ce qui s'est passé dans ta vie. Tu sais, des fois, on part d'avance, on dit, moi, je sais pas quoi leur dire. On n'a pas besoin d'apprendre la Bible par cœur. C'est sûr que quelques versets clés, ça serait peut-être bon, mais racontez tout simplement ce que le Seigneur fait dans votre vie. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Il dit là, il venait de lui apparaître, il venait de le rendre aveugle, puis il a vu une lumière, il a vu que tout le monde entendait la voix, mais personne ne comprenait qu'est-ce qui se passait. Puis, là, il est en train de dire, ce que tu es en train de voir, là, je viens de t'apparaître, là, tu sais que je suis là, mais raconte ça aux autres. Puis il est parti, puis il a commencé à répondre tout de suite que Jésus t'a vraiment ressuscité. En résumé, dans son bon, ces deux passages-là, tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, ils peuvent témoigner de son action en eux ou sur eux, par sa parole et sa puissance. Parce que la parole de Dieu aussi nous change. On lit des passages de la parole, oups, on est touché par un verset, on s'accroche à une promesse, puis oups, notre vie change. On devient libéré de certaines choses, on devient guéri de d'autres choses, par sa parole, mais aussi par l'action de son Saint-Esprit. Quelqu'un prie pour nous autres, oups, on reçoit une guérison, une délivrance. On a déjà des choses à raconter. On n'a pas besoin de connaître les choses par cœur, mais on est capable déjà de dire ce qui se passe dans notre vie. On peut partager chaque petit détail de ce que nous vivons, que ce soit comment nous nous sommes convertis. Ou on peut partager les exaucements de prière. Ça arrive. Moi, je pense que tout le monde a eu des exaucements de prière. À quelque part dans votre vie, vous avez demandé des choses au Seigneur, puis il vous a accordé ce que vous aviez demandé. Puis il y a un chant qu'on chantait avant qui était bon à... Pour faire prendre une prise de conscience sur un point, ça disait, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Et des fois, on oublie ce que Dieu a fait, puis on arrive devant quelqu'un, puis on ne sait pas quoi dire. Pourtant, il a fait plein de choses, il n'a pas fait rien qu'une. Il a fait plein de choses dans notre vie, mais on les oublie. Ça serait peut-être bon qu'on commence à se rappeler, là, le Seigneur a fait ça dans ma vie, là, on écrit tel point, on écrit telle affaire. Puis là, après ça, quand on veut parler à quelqu'un, de quoi qu'on peut s'entretenir? Mais, hey, le Seigneur, lui, a fait ça dans ma vie, il a fait ça, puis il a fait ça, puis il a fait ça. Puis là, la personne va être touchée parce que c'est plus qu'une religion. Vous avez vraiment une relation avec Dieu, il y a de quoi de vivant, vous êtes des vrais. Puis vous êtes en communion avec le vrai. Parce qu'il se passe de quoi dans votre vie? Dans les religions, il ne se passe rien. Puis ils n'ont rien à raconter, sauf à répéter leur tradition. Il dit, pourquoi tu suis ça? Ben, c'est parce que mon père suivait ça. Mais pourquoi ton père suivait ça? Ben, parce que son grand-père suivait ça. Ils ne comprennent pas autre chose que suivre leur religion par tradition. Ben, nous autres, on suit notre relation avec le Seigneur, puis on vit toutes sortes d'expériences, puis on est capable de raconter les expériences qu'on vit. On peut parler aussi de ses promesses. Des fois, on s'accroche à des promesses, puis on voit des résultats. Ben, on le dit aux personnes. Hey, moi, il y avait telle promesse qui m'avait touché en lisant dans la parole. Je me suis accroché à ça, puis le Seigneur m'a sorti d'une situation avec sa promesse. C'est toutes des choses qui peuvent se raconter. On peut raconter ce qu'on a appris dans la parole. Des versets ici et là. On pense avoir juste un, mais on dit ce verset-là. Si on en sait 25, on peut raconter n'importe quel verset. Tout est bon quand ça vient de Dieu. Puis ça peut servir à convaincre d'autres personnes. On peut même raconter le témoignage de d'autres personnes. Quand que là, on raconterait l'histoire du démoniaque qui a été délivré, on peut raconter ça à quelqu'un. Hey, le Seigneur, à un moment donné, est arrivé puis il a délivré une personne qui avait 2000 démons. Puis après ça, la personne t'a complètement rétabli, puis qu'elle est prête à suivre Jésus. Mais c'est un témoignage. Ils ont raconté dans la Bible un témoignage que quelqu'un avait vécu. Bien, nous autres, si on peut servir des témoignages d'un puis de l'autre, des fois, on ne sait pas quoi dire. On peut en dire. Si vous ne vous rappelez pas ce que le Seigneur vous a fait, vous pouvez vous rappeler peut-être d'un témoignage de quelqu'un. C'est tous des sujets qu'on peut servir. On peut raconter aussi le bon temps qu'on a entre frères et sœurs quand on est dans une réunion. Je parle du bon temps. Je dis pas de raconter les mauvaises expériences qu'on a vécues, mais chaque bonne affaire qu'on vit. Hey, j'étais déprimé, là il y a un frère qui est venu me voir, il a prié pour moi, il m'a pris dans ses bras, ça m'a fait du bien, ça m'a relevé. Mais ça, des choses de même, on peut raconter ça. Parce que les gens qui sont dehors, ils ont personne pour les prendre dans leurs bras. Ils ont personne pour prier pour eux autres. Ils ont personne pour même pouvoir partager ce qu'ils vivent dans leur cœur. Puis ils sont poignés de toutes sortes de situations. Puis nous autres, on vit toutes sortes de bonnes situations ensemble. Il y a des choses qui se passent là qu'on ne voit pas ailleurs. Quand il y a deux personnes qui se prennent dans leurs bras, des fois, ils ne sont même pas de la même famille, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai. Puis il y a vraiment de l'amour là-dedans, puis ça, les gens le savent pas. Les gens, ils ont vu que notre vie a changé quand on est venu en Jésus-Christ, mais ils savent pas pourquoi que ça a changé. Ils savent qu'on a changé, mais si je me dis, « Ah, les gens vont voir mon exemple, puis ils vont se convertir », non, c'est pas assez. Ils ont vu ton exemple que tu avais changé, puis ils vont dire, « C'est vrai ». Mais à cause de quoi t'as changé, ça, ils savent pas. Ils ont besoin d'entendre pourquoi t'as changé ou comment t'as changé. C'est là que tu vas y expliquer. Mais là, j'ai commencé à chercher Dieu, puis là, j'ai demandé des affaires, puis là, il m'a exaucé. Puis là, en d'autres moments, il y a quelqu'un qui a prié pour moi, j'étais malade, puis je suis devenu guéri d'un coup sec. Puis à un autre moment donné, je suis rentré dans une église, je savais pas qu'est-ce qui se passait, puis là, j'étais serré dans... Quelqu'un m'a serré dans ses bras, puis a prié pour moi, puis ça m'a fait du bien. Puis à un moment donné, j'étais dans la réunion, j'écoutais le pasteur prêcher, puis on dirait qu'il prêchait directement pour moi. Les paroles qu'il disait, c'était exactement ce que je vivais dans ma vie. Puis là, je pensais que quelqu'un était pour... qu'il avait stoulé de ce que je vivais, puis qu'il y avait... Tu sais, c'est toutes des faits qui se passent réels, mais c'est toutes des faits surnaturels. Parce que la puissance de Dieu, elle agit à travers de toutes ces choses-là. Ça nous délivre, ça nous guérit, ça nous restaure, ça nous fortifie, ça nous édifie, ça nous fait du bien. Là, quand que Jésus a dit au démoniaque ou à Paul, il a dit, allez raconter ce que le Seigneur vous a fait puis comment est-ce qu'il a eu pitié de vous. Tu vas raconter ce que tu as vécu, ce que tu vis, puis ce que tu vas vivre si tu t'appuies sur des promesses. Là, les gens vont comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, pourquoi tu n'es pas pareil aux autres, pourquoi tu es différent. Ils vont le comprendre. Là, ils vont réaliser que c'est parce que Jésus t'a touché, que Jésus il a répondu à tes prières, que Jésus a parlé à ton cœur puis il a changé ta vie, puis qu'il t'a donné son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Notre mission, c'est de semer puis d'arroser. Dans Luc 8, le verset 5 à 8, ça nous dit, « Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc, puis quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Un autre parti tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Un autre parti tomba dans la bonne terre, et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a deux choses qu'on peut remarquer dans ce passage. Premièrement, il y a quelqu'un qui est sorti pour semer. Sens-là, il aurait été impossible qu'il se passe quelque chose. Il aurait été impossible que la semence puisse porter du fruit s'il n'y aurait personne qui sera sorti pour semer. Ça, là, c'est un exemple pour nous autres, pour nous dire, un semeur sorti pour semer, ça veut dire, faut que je sorte et que j'y aille semer. Là, on voit que le Seigneur voyait qu'il y avait du fruit au bout de son ouvrage à cette personne-là. Mais si je veux voir du fruit dans ma vie, il faut que je sorte et j'y aille semer. Le deuxième point que j'analyse là-dedans, c'est que c'est pas la personne qui est en train de semer, il s'est pas arrêté pour analyser à quel endroit il semait. Il a semé sur le long du chemin, dans des endroits pierreux, dans des épines et des ronces, puis dans le champ, où il y avait de la bonne terre. Lui, sa job, c'était de sortir pour semer. C'était pas à lui de recommencer à analyser le sol avant qu'il arrive dans les lieux pour le semer. C'est au Seigneur de juger si la personne est une future bonne terre ou non. Nous ne savons pas si une personne était porteuse ou non de fruits pour le Seigneur. On ne sait pas si la personne ou ce qui va recevoir la semence, si c'est de la bonne terre, ou si c'est un endroit pierreux, ou si c'est des épines et des ronces, ou si tout simplement c'est que l'ennemi va venir y enlever. L'important qu'on doit savoir ce soir, c'est qu'il faut se dire, faut que je sorte pour aller semer. Le deuxième point, c'est pas à moi d'analyser quelle est la condition de la personne avant que j'y sème la parole. Je dois semer. Puis le Seigneur va s'arranger avec le reste. Parce que si je commence à analyser, des fois je peux faire des fausses analyses, puis me priver de semer à quelqu'un, puis cette personne-là était tout bien, était due pour accepter, puis que moi je me suis dit, oh, il acceptera jamais, puis là on s'empêche de faire l'œuvre que le Seigneur voulait. C'est Jésus qui va faire rendre compte à chaque terrain comment que ça a apporté le fruit dans sa vie. C'est pas à moi d'analyser ça. Moi, je dois sortir, semer, arroser, puis Dieu s'arrange avec le reste. Nous sommes ouvriers avec Dieu, puis il faut prendre notre rôle au sérieux. Parce que le Seigneur, comme j'ai dit, il est en train de travailler, puis il veut que les gens soient sauvés, puis son esprit agit, puis il y a un plan, lui, pour atteindre tous ces gens-là, mais il compte sur nous autres pour se joindre, à rentrer dans son plan, puis commencer à faire notre job de semer. 1 Corinthiens 3, le verset 6 à 9, ça nous dit, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » En sorte que c'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Mais le point qui m'intéresse là-dedans, qui je trouve super, nous sommes ouvriers avec Dieu. Tu sais, des fois, on dit, mais le Seigneur va s'arranger pour convaincre tout ce monde-là. C'est pas de même ça marche, c'est pas juste le Seigneur. Le Seigneur va s'arranger, oui, mais il compte aussi que moi, je sois là en train de le faire. Travailler à semer, à arroser. On n'est pas plus important un que l'autre. Qu'on soit le premier qui passe pour annoncer la parole ou qu'on soit le deuxième qui passe. On n'est pas plus important. On est tous égaux. On va tous recevoir selon notre propre travail, selon notre propre labeur. Mais Dieu va faire croître. Parce qu'on est ouvrier avec lui et qu'on travaille avec lui à cette moisson-là. Un autre passage nous dit que nous sommes ambassadeurs d'en haut. Ça, là, être un ambassadeur, là, c'est un très haut titre. Honorifique, d'être un représentant d'un pays dans un autre pays. Le Canada a des ambassadeurs. C'est des gens qui sont placés dans chaque pays, puis ils représentent le Canada. Quand ces gens-là rouvrent la bouche, ils parlent dans le nom du Canada, ils racontent la pensée du Canada, ils racontent la vision du Canada, ils permettent, ça permet même d'établir des contacts pour faire des trafics d'échanges ou de vente et d'achat, puis ça rouvre des portes, ces ambassadeurs-là, pour le pays. C'est bon qu'il y en ait. Mais nous, dans Éphésiens 6:20, ça nous dit, Paul qui disait ça, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ça dit, il se dit lui-même qu'il est un ambassadeur. Il est une personne qui représente le royaume de Dieu sur la terre, puis qui parle dans le nom de Dieu, il parle dans le nom du royaume de Dieu, puis il parle comment que ça marche dans ce royaume-là. Puis il est comme en train de faire de travailler de façon à intéresser les gens à ce que ces gens-là embarquent puis qu'ils changent de royaume. 2 Corinthiens 5:19, ça nous dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, puis la phrase qu'on dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quand on est envoyé dans ce monde, puis qu'on est ouvrier avec Dieu, on fait une fonction d'ambassadeur, on est comme représentant de ce que Dieu pense, de ce que Dieu dit, puis on parle aux gens de façon, soyez réconciliés avec Dieu. Puis même en suppliant, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est comme si on sait qu'on fait partie du royaume gagnant, du royaume qui est permanent, puis on supplie les gens d'entrer dans ce merveilleux royaume-là. On travaille avec Dieu comme ouvrier, comme envoyé, comme ambassadeur, pour aller chercher ces gens-là, puis les exciter en les suppliant de changer de royaume. C'est pas pour nous autres mêmes qu'on le fait. C'est sûr que Dieu, il va être content que ça se passe, mais on le fait pour ces gens-là, pour qu'ils puissent être sauvés, pour que ces gens-là puissent réaliser leur état et changer de royaume. Puis le Seigneur a besoin de notre travail. Un représentant devrait être animé de la même vision et du même zèle que celui qui l'envoie. Si moi je suis un représentant du royaume, je suis un représentant, un ambassadeur, je dois être animé du même zèle, de la même vision que celui qui m'a envoyé. Comment est-ce que je peux arriver à démontrer que mon royaume, il est beau, il est bon, puis qu'il est meilleur, puis qu'il peut y apporter quelque chose à cette personne-là, si j'ai pas cette vision-là, que ce royaume-là, il est beau, il est bon, puis il est meilleur? Faut que je sois animé de la même vision. Jésus, quand il est venu, il a pris la peine de tout quitter. Il a quitté sa gloire, puis son désir, son but, son cœur, c'est... Je vais aller leur dire ce qu'il y en est, puis je vais payer le prix afin que ce soit le plus facile possible pour qu'ils puissent rentrer. Ils auront juste à croire en moi et à me suivre. Puis ils vont rentrer. Il a mis ça le plus facile. Fait que si je pars avec l'idée, bon, c'est plate être chrétien. Oh, c'est plate, ça donne rien. Je tourne en rond, j'ai rien que de la misère, j'ai rien que des problèmes, tout va mal. Si on passe notre temps à vivre dans ces contextes-là, comment est-ce qu'on va pouvoir donner de la saveur aux gens? Comment est-ce qu'on va être capable d'exciter ces gens-là à vouloir changer de camp? Je dois avoir le même zèle que Jésus, la même vision que Jésus, la même pensée que Jésus quand il est venu, qui a décidé de tout abandonner. Hey, avez-vous déjà considéré tout ce que Jésus a abandonné pour venir sur la terre? Il dit qu'il existait en forme de Dieu. Jésus n'était pas moins que cela. Il existait dans la forme de Dieu. Il était Dieu, puis il était autant puissant, immense et omniprésent, puis omnipuissant que tu peux imaginer Dieu, mais Jésus était de même. Il a quitté tout ça pour prendre une forme humaine parce qu'il avait à cœur de venir nous chercher. Et nous autres aussi, il faut arriver dans cette même zèle-là, dans cette même pensée-là, puis de s'exciter à vouloir être comme ça. Nous devons nous exciter mutuellement à persévérer dans notre enthousiasme et notre passion de sauver les hommes. Pour continuer à s'exciter ensemble, pour qu'on soit toujours motivé à vouloir sauver les hommes. Je sais qu'on arrive des périodes dans notre vie où ça ne nous tente plus de parler de Jésus. On pense qu'on a fait le tour de ceux qui nous entourent, puis que le Seigneur s'arrangera avec eux autres, moi j'ai fait ce qu'il avait à faire. Non, faut pas prendre ça de même. Faut être toujours excité de vouloir avoir une autre occasion de leur parler, puis même de prier est-ce qu'il y en ait d'autres occasions. Puis quand on arrive devant ces personnes-là, qu'on leur donne de la saveur, dire qu'il y a de quoi de bon dans le royaume de Dieu, il y a de quoi de bon dans la famille de Dieu, qu'on vit des choses extraordinaires, viens, je t'en supplie dans le nom de Dieu, sois réconcilié avec Dieu, puis embarque dans la gang. Tu vas avoir la même chose, toi ici, ta vie va être changée, ta vie va être transformée. Un ambassadeur qui a perdu de vue son identité ou la vision de son royaume, il est complètement inutile et ne travaille plus à sa mission. Il ne faut pas la perdre, notre identité. Il faut toujours se le rappeler, je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. Quand on avance, qu'on marche dans ce monde, quand on va sortir d'ici, je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. Quand on rencontre notre famille, quand on rencontre nos voisins, quand on rencontre du monde au magasin ou au restaurant ou au travail, je suis un ambassadeur. Je suis en train de donner le goût du royaume. Puis je vais parler de façon à exciter les gens à venir dans mon royaume. Puis là, si j'ai cette vision-là, puis j'ai la pensée de Jésus dans ma tête, j'ai cette vision-là, je vais rencontrer ces gens-là, puis ils vont dire, il y a quatre choses en dedans de toi que j'ai pas. Puis je le veux. Mais ils savent pas c'est quoi. Tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour leur dire que c'est à cause que Jésus est en moi, le Saint-Esprit est en moi, le Saint-Esprit a changé ma vie. Là, tu leur dis, là, ils vont comprendre, puis là, ils vont changer de bord. Merci Seigneur. Alléluia. On va arrêter là. Il est assez tôt. Je ne veux pas abuser de votre temps. Mais il faut continuer à s'exciter à vouloir répandre la parole de Dieu. Si jamais on réalise qu'on s'est refroidi, il faut tout de suite s'exciter et commencer à prier le Seigneur qui nous redonne la passion des âmes. Une soif de vouloir voir les gens venir à Jésus. Avoir la même vision que Jésus avait quand il travaillait sur la terre pour sauver ces gens-là. Puis si on rentre dans cette dimension-là, toute la gang, il va se passer de quoi? Il va se passer de quoi? Il va se passer de quoi de beaucoup plus grand que ce qui se passe quand on y pense pas pantoute. Même des fois, on y pense pas, il se passe des choses quand même, merci Seigneur, parce que sinon, ça fait longtemps qu'on serait rendu dans le champ. Mais si on se met à s'exciter et qu'on commence à prier pour des choses, qu'on commence à le désirer, il va se passer des choses extraordinaires. On va rentrer dans un temps de prière. Continue à prier quand la semence est semée, que le Seigneur continue à faire son œuvre, comme les gens à cabane à sucre. Puis, vous pouvez prier aussi pour que le Seigneur ouvre d'autres occasions où on peut aller répandre la parole en groupe, dans des réunions spéciales. Et le Seigneur va agir. On peut prier pour des personnes qui sont proches de nous, que le Seigneur nous donne des occasions de leur parler de Jésus. Si vous savez,